Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne, lu par Christian Martin. Chapitre 10e. Fondation de Québec, 1608. Champlain fait un rapport à De Monde de ses découvertes. Champlain et Gravé partent pour le Canada. Arrivé à Tadoussac, les Basques attaquent le vaisseau de Gravé. Champlain règle le différend. Arrivé à Québec. Travaux de défrichement au pied du cap. Construction d'un magasin et d'un logement. Conspiration de Duval, Natel et autres contre Champlain. Intervention heureuse de Guillaume le Têtu. Duval condamné à mort et pendu. Description de l'habitation de Québec. Gravé s'en retourne en France. Voisinage des sauvages. L'hiver de 1609. Dysenterie et scorbut enlèvent plusieurs hommes. Arrivé au printemps de Claude Desmarots, gendre de Gravé. Champlain se prépare à aller porter la guerre aux Iroquois. Après son retour en France, dans l'automne de 1607, Champlain se hâta d'aller à la rencontre de M. De Monde et lui fit le récit de ce qui l'avait le plus impressionné durant les 3 années de son séjour en Amérique. Il lui remit en même temps la carte et le plan des côtes et des ports les plus remarquables qu'il avait si minutieusement visités. Découragé par le peu de succès de cette entreprise, et probablement aussi poussé par Champlain à porter ses vues sur la région du fleuve Saint-Laurent, De Monde résolut de ne point abandonner une si généreuse et vertueuse entreprise, quelques peines et travaux qu'il y eut par le passé. Les sacrifices de tout genre qu'il avait faits jusqu'alors aurait été perdu à tout jamais s'il eût agi autrement. C'était pour lui une bonne occasion de reconstituer une fortune gravement compromise, et il sut en profiter. L'homme qui pouvait mieux que tout autre le comprendre et entrer dans ses plans de colonisation était tout indiqué d'avance dans la personne de Champlain. Poutrincourt avait donné la mesure de sa valeur dans ses travaux en Acadie. Certes, son mérite était considérable, mais il était trop rempli d'espoir de ce côté, d'autant plus que ses intérêts particuliers devaient l'attirer à Port-Royal plutôt qu'ailleurs, pour qu'il fût question de le choisir. Champlain fut donc nommé lieutenant de De Monde pour commander une expédition à Québec. Pontgravé devait conduire les vaisseaux, faire la traite avec les sauvages, et puis retourner en France la même année. M. De Monde avait obtenu, dans l'intervalle des préparatifs du départ, une commission interdisant à toute autre personne le trafic des fourrures.
Durant le temps d'un an seulement, Esther, pays, port, rivière et avenue de l'étendue de sa charge.
Ces lettres patentes furent signées à Paris le 7 janvier 1608. Le vaisseau de Pontgravé partit de Honfleur le 5 avril et celui qui portait Champlain le mit à la voile que 8 jours plus tard. Le 30 mai, l'île de Percé et les côtes gaspésiennes apparurent dans le lointain, mais on ne s'y arrêta point. Champlain arriva bientôt près de Tadoussac et vint jeter l'ancre dans le mouillage du moulin Baude, puis il courut en chaloupe à Tadoussac pour s'assurer si Pontgravé y était rendu. Chemin faisant, il rencontra le pilote de Pontgravé et un Basque qui venait au-devant de lui pour lui apprendre que Pontgravé, ayant voulu empêcher le capitaine d'Arrache, commandant du navire basque, de faire la traite avec les sauvages, celui-ci avait déployé toute son artillerie contre le vaisseau français. Durant l'action, 3 matelots et Pontgravé avaient été blessés. D'Arrache avait fait main basse sur l'artillerie afin d'être plus en sûreté pour continuer son trafic malgré les défenses du roi. Mais il s'engageait à en faire la restitution avant son départ. L'émissaire basque voulait s'assurer de Champlain qu'aucune mesure de représailles ne serait prise contre son maître. Champlain lui fit réponse qu'il se consulterait avec Pontgravé avant d'agir. En effet, après avoir révisé pour le mieux, ils décidèrent d'un commun accord, afin d'une juste cause d'en faire une mauvaise et ainsi se ruiner, de ne rien entreprendre contre les Basques, mais ils étaient bien déterminés à saisir la justice de cette affaire aussitôt qu'ils auraient mis le pied sur le sol de la France. D'Arrache les invita à se rendre à son bord et il leur fit une bonne réception. Là, Champlain mit l'accord entre les deux capitaines. D'Arrache promit qu'il n'attaquerait plus Pontgravé et ne ferait rien au préjudice du roi ni du sieur de Monts. Ce différend vidé, grâce à l'intervention opportune de Champlain, les charpentiers affrétèrent une petite barque de 12 à 14 tonneaux, puis transportèrent à Québec les objets nécessaires à l'habitation projetée. Dans l'intervalle de ses préparatifs, qui devaient durer plusieurs jours, Champlain remonta le cours du Saguenay et il y recueillit des sauvages qu'il rencontra certaines informations sur le lac Saint-Jean et ses tributaires, qui n'étaient en somme que le résumé de ce qu'il avait appris d'eux à son voyage de 1603. Ce ne fut que le 30 juin que l'on se mit en route pour remonter le Saint-Laurent. Trois jours plus tard, Champlain et les 30 hommes qui l'accompagnaient débarquèrent sur le rivage au pied du promontoire de Québec. Parmi ceux-ci, notons Nicolas Marcellet, Étienne Brûlé, Bonnerme, chirurgien, Jean Duval, Antoine Nattel et Lataille. Ce sont les seuls dont l'histoire nous a conservé les noms. Ce fut le 3 juillet que la petite troupe mit pied à terre. Le premier soin de Champlain fut de chercher un endroit propice pour y construire un logement. « Je n'en pus trouver de plus commode, dit-il, ni mieux situé que la pointe de Québec, ainsi appelée des sauvages, laquelle était remplie de noyers. » Champlain fit d'abord abattre un petit carré d'arbres, creuser une cave et des fossés. Pendant qu'un groupe d'ouvriers travaillait à préparer le bois pour la charpente du magasin destiné à abriter les vivres, d'autres étaient retournés en toute diligence à Tadoussac afin d'en remporter les outils et les munitions qu'on y avait laissés sous bonne garde. Tels furent les débuts de la ville de Champlain. Début bien humble, sans doute, pour un poste que son fondateur destinait à devenir le grand entrepôt du commerce dans la Nouvelle-France. Jusqu'alors, les marchands français avaient pratiqué leur opération dans les lieux où ils pouvaient plus facilement atteindre les sauvages. Chauvin ne dépassa pas Tadoussac. Trois-Rivières, les îles de Sorel, l'embouchure de la rivière des Iroquois, l'entrée de la rivière des Outaouais, étaient restées à peu près inconnues aux navigateurs français qui venaient au Canada. Mais ces divers postes, de facile accès aux aborigènes, n'offraient pas les mêmes garanties que Québec sous le rapport de la sûreté des habitants. Champlain avait parfaitement saisi l'importance de jeter les bases de sa ville dans un endroit naturellement fortifié où, dans tous les cas, il serait facile de se mettre en état de défense contre les ennemis qui ne manqueraient pas de surgir tôt ou tard. Les premiers adversaires que Champlain eut à combattre à son arrivée au Canada ne furent point les aborigènes, comme on pourrait se l'imaginer, mais des Français, gens de son équipage qui, sous divers prétextes, aussi peu fondés les uns que les autres, tramèrent d'assassiner leur chef, qui était animé pourtant de bonnes dispositions à leur égard, et de remettre ensuite la place aux Basques. Un nommé Jean Duval, serrurier du roi, avait monté cette honteuse conspiration. Il réussit à débaucher 4 matelots, aussi mauvais garnement que lui, en leur donnant à entendre qu'ils partageraient la fortune qui devait être le prix de leur trahison. Pour mieux faire réussir leur infernal complot, ceux-ci avaient été chargés d'en suborner d'autres. Tous promirent, sous peine de mort, de ne point livrer le secret. La date de l'assassinat avait été fixée. Il devait laisser écouler 4 jours encore, et durant la nuit qui les suivrait, une fausse alarme serait donnée, et alors, à la faveur des ténèbres et de la confusion générale, où l'on étoufferait Champlain, où on le ferait périr d'un coup d'arquebuse. Les 4 jours étaient expirés, lorsqu'arriva le Tadoussac, une des barques commandées par le capitaine Le Têtu, qui jouissait de la considération et de l'estime générale à cause de sa grande discrétion. Le déchargement était terminé et la barque était prête à faire voile pour s'en retourner lorsque Nattel, un des complices de Duval, et serrurier comme lui, eut la bonne inspiration de dévoiler au capitaine Le Têtu l'affaire montée contre la vie de Champlain, le suppliant en grâce de garder le silence sur son nom. Têtu informa aussitôt Champlain de ce qu'il venait d'apprendre et lui demanda le pardon pour celui qui avait eu le courage de tout divulguer. Nattel comparut devant son maître et lui avoua la vérité. Il n'y avait pas de temps à perdre, car la nuit qui devait être témoin du meurtre approchait. Champlain comprit qu'il n'avait rien à gagner en essayant de parlementer avec ses mauvais sujets, et sous un prétexte quelconque, afin de s'assurer plus facilement de leur personne, il invita les 4 conspirateurs à prendre part durant la soirée à une collation qui leur serait servie sur la barque de Têtu. La nuit venue, les 4 galants, c'est ainsi que Champlain les désigne, n'eurent rien de plus pressé que de se rendre au lieu du festin. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand, au lieu du vin qu'ils espéraient boire, ils se virent cernés et garrottés comme des malfaiteurs. Ils firent aussitôt l'aveu que Champlain exigea d'eux. Le lendemain, ils recueillirent leurs dépositions en présence du pilote et des marins, et les mit par écrit. Cette enquête préliminaire terminée, Champlain fut mettre des menottes aux 4 séditieux, ainsi qu'au chirurgien Bonnerme et à Lataille, qui avait été faussement accusé de complicité. Mais ils furent tous deux remis en liberté. Champlain conduisit lui-même ses quatre prisonniers à Tadoussac afin de délibérer avec Pontgravé sur la ligne de conduite à suivre. Celui-ci consentit à les garder dans son vaisseau et de les ramener plus tard à Québec afin de les confronter avec Nathel et les autres témoins, et puis d'en faire bonne justice. Champlain s'en revint ensuite à son habitation où tout était à la merci de ses gens, qui ne s'étaient pas contentés de faire bombance, mais laissaient gaspiller les provisions sans se soucier où ils en prendraient d'autres lorsqu'elles seraient épuisées. Pontgravé ne tarda pas à apparaître avec les quatre galants au grand mécontentement des ouvriers. Croyant que Champlain leur avait pardonné, ils s'imaginaient que les coupables cherchaient à tirer vengeance pour avoir témoigné contre eux. Mais ils se trompaient, car les misérables allaient être mis à la question, confrontés les uns avec les autres, et puis condamnés à une juste punition de leur préméditation de meurtre. Les déclarations furent les mêmes, et il n'y eut qu'une voix pour dénoncer Jean Duval comme l'auteur du complot, qui avait pris naissance aussitôt après le départ de leur pays natal. Duval n'eut pas un mot à dire pour sa défense. Il avoua qu'il avait mérité la mort, mais il supplia ses juges d'avoir pitié de lui et des autres qui avaient suivi ses funestes conseils. On avait constitué une espèce de jury, dont formaient partie Pontgravé, Champlain, Têtu, Bonnerme, le maître de la barque, le contremaître et quelques marins. Après qu'ils eurent entendu les dépositions des témoins et confronté les accusés, tous ensemble décidèrent unanimement que Jean Duval serait
pendu et étranglé au dit Québec, et sa tête mise au bout d'une pique pour être plantée au lieu le plus éminent du fort, et les trois autres condamnés d'être pendus, et cependant les ramener en France entre les mains du sieur de Mont, pour leur être fait plus ample justice, selon qu'il aviserait, avec toutes les informations et la sentence.
L'escarbot, rapportant cette triste affaire, dit que leur mécontentement contre Champlain avait eu pour prétexte le trop grand travail auquel il les assujettissait, et la petite quantité de nourriture qu'il recevait de lui. Le naïf historien de Port-Royal ne savait donc pas que les conspirateurs eux-mêmes avaient fait l'aveu du motif de leur révolte. Après avoir tué Champlain, ils devaient s'emparer des provisions et des marchandises, et puis se sauver en Espagne sur un des vaisseaux basques qui était alors dans la rade de Tadoussac. Qu'il y eut connivence entre Duval et Darache, ou quelque autre contrebandier que nous avons vu faire la traite au mépris des privilèges de M. de Mont, il n'est pas téméraire de le penser, car les Basques étaient gens sans vergogne, capables de tout faire pour s'assurer la suprématie du Saint-Laurent. Quoi qu'il en soit, les trois complices de Duval, ramenés en France, obtinrent leur pardon après avoir reconnu leur faute. C'est le deuxième cas de pendaison que mentionne l'histoire du Canada. Le premier qui eut à subir le sort fatal est un des compagnons de Roberval, Michel Gaillon, qui fut exécuté au Cap-Rouge durant l'hiver de 1542-43. Cet acte de justice sommaire ne saurait être blâmé. Il importait en effet qu'il y eût un exemple afin d'ôter aux autres toute velléité de trahison dans le futur. Champlain était, du reste, revêtu des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, constituant une sorte de despotisme tempéré dont le fondateur de Québec, homme d'une grande douceur de caractère, n'abusa jamais.
En paix, repos et tranquillité,
disaient les instructions,
commander et gouverner, tant par mer que par terre. Ordonner, décider et faire exécuter tout ce que vous jugerez ce devoir et pouvoir faire pour maintenir, garder et conserver les dix lieux sous notre puissance et autorité. Par les formes, voies et moyens présents, par nos ordonnances. Et pour y avoir égard avec nous, commettre, établir et constituer tous officiers, tant est-ce affaire de la guerre que de justice et police, pour la première fois, et de là en avant, nous les nommer et présenter, pour en être par nous disposés, et donner les lettres, titres et provisions, telles qu'ils seront nécessaires. Et, selon les occurrences des affaires, vous-même, avec l'avis de gens prudents et capables, prescrire sous notre bon plaisir des lois, statuts et ordonnances, autant qu'il se pourra conforme aux nôtres, notamment est-ce chose et matière auxquelles n'est pourvu Paris-Celle.
À dater de ce jour-là, tout le monde remplit son devoir, et Champlain ne fut plus jamais molesté, et il continua les travaux au milieu de la plus profonde tranquillité. L'habitation se composait de trois corps de logis et de deux étages, chacun pouvant mesurer trois toises de long sur deux et demi de large. Le magasin, seul, avait six toises sur trois, avec une cave de six pieds. Champlain logeait dans le même édifice que les ouvriers, mais à l'étage inférieur. L'autre corps de logis servait aux ouvriers et au dépôt des armes et munitions. Dans une allonge, située en arrière des chambres de Champlain, quelques artisans couchaient à côté de la forge. Tout autour de l'habitation, une galerie de 10 pieds de large servait de promenoir. Un fossé de 15 pieds de large et creux de 6 pieds devait protéger la vie des colons contre les agressions des sauvages. Champlain fit dresser en dehors du fossé plusieurs pointes d'éperons où il disposa des pièces de canon. Il ne restait plus entre l'habitation et le fleuve qu'une lisière de terrain de 4 toises et, en arrière, du côté du cap, un espace de terres arables de 100 à 120 pas de long sur la moitié autant de large. Champlain dit que ses jardins étaient très bons. Il y fit semer du blé et du seigle d'automne et planter des vignes sauvages. Dans les premières semaines qui suivirent son installation à Québec, Champlain fit une étude des lieux avoisinants. « Plus proche du dit Québec, raconte-t-il, il y a une petite rivière qui vient de dans les terres d'un lac distant de notre habitation de 6 à 7 lieues. Je tiens que cette rivière, qui est au nord et un quart de nord-ouest de notre habitation, ce fut le lieu où Jacques Cartier hiverna, d'autant qu'il y a encore un lieu dans la rivière des vestiges comme d'une cheminée dont on a trouvé le fondement et apparence d'y avoir eu des fossés autour de leur logement qui étaient petits. Nous trouvâmes aussi de grandes pièces de bois équarri, vermoulues et quelques 3 ou 4 balles de canon. Toutes ces choses montrent évidemment que ça a été une habitation, laquelle a été fondée par des chrétiens. Et ce qui me fait dire et croire que c'est Jacques Cartier, c'est qu'il ne se trouve point qu'aucun ait hiverné ni bâti en ces lieux que le dit Jacques Cartier au temps de ses découvertes, et appert fort clairement par son discours que ce fut proche de Québec et qu'aucun n'avait encore recherché cette particularité, sinon ce que j'ai fait en mes voyages. Car, dès la première fois qu'on me dit qu'il avait habité en ce lieu, cela m'étonna fort, ne voyant apparence de rivière pour mettre vaisseau, comme il décrit. Ce fut ce qui m'en fut faire exacte recherche pour enlever le soupçon et doute à beaucoup. La petite rivière, venant d'un lac de dans les terres et distant de 6 à 7 lieues de l'habitation, est évidemment la rivière Saint-Charles, appelée Sainte-Croix par Jacques Cartier. L'affirmation de Champlain au sujet du lieu où le découvreur hiverna est péremptoire. Il a vu les vestiges d'une cheminée, des restes de fossés, des pièces de bois équarri et des boulets de canon, toutes choses qui prouvent, jusqu'à l'évidence, que des chrétiens avaient séjourné dans cet endroit, où plus tard, les jésuites fixèrent leur demeure, suivant l'expression même de Champlain. Or, il est avéré que ces religieux avaient construit, en 1626, leur résidence de Notre-Dame-des-Anges, sur les bords de la rivière Saint-Charles, à quelques 200 pas du rivage, tout près de l'endroit où le ruisseau Lairet vient prendre son embouchure. Pontgravé était parti le 18 septembre pour la France, laissant Champlain avec 27 personnes et d'amples provisions pour un hivernage. Ce renfort était un précieux appoint, car il eût été difficile aux Français de se procurer des choses nécessaires à leur alimentation, vu que les sauvages eux-mêmes, qui s'étaient cabanés à proximité de l'habitation, se trouvèrent sans ressources et reçurent durant la saison des neiges plus de secours sous ce rapport qu'ils n'en purent donner. Imprévoyants, comme ils ont toujours été de tout temps, ils entraient en hiver sans se préoccuper du lendemain, se fiant, pour vivre, sur les produits de leur pêche ou de leur chasse à l'orignal ou au caribou. Ce voisinage était désagréable et il pouvait offrir certains dangers. À tout instant, le fort était encombré de peaux rouges que la faim ou la peur d'ennemis toujours invisibles y attiraient. Mû d'une charité digne d'éloge, Champlain leur donnait de la nourriture, et aux femmes l'hospitalité à l'intérieur de l'habitation, laissant les hommes libres de se tenir dans les jardins, leur conseillant aussi de faire le guet par escouade, à tour de rôle, d'après le système adopté par les Français depuis leur séjour au pays. Les sauvages n'avaient d'autre but, en feignant ainsi la peur, de soutirer leur subsistance. Champlain comprit parfaitement leur ruse, car il les traite de menteurs. On ne saurait se faire une idée de la misère que ces sauvages enduraient durant l'hiver. L'automne, ils se nourrissaient d'anguilles fraîches et ils en faisaient sécher une petite provision qui leur durait jusqu'au mois de février. La chasse aux castors se faisait au commencement de l'hiver et en février, alors que les vivres étaient consommés, s'ils avaient la chance de tuer des élans ou autres bêtes des bois, ils se rendaient au printemps sans trop souffrir. Mais les chasses étaient souvent improductives. Ces pauvres diables dévoraient, dans leur disette, tout ce qui leur tombait sous la main. Coquillages, cadavres d'animaux en putréfaction. Champlain rapporte qu'il avait jeté, à quelques distances du magasin, un chien et une truie pour servir d'appât aux renards. Après avoir été exposé à tous les temps, ces cadavres exhalaient une odeur tellement infecte que les Français se tenaient à distance pour s'en préserver l'odorat. Les sauvages affamés les traînèrent un jour dans leur cabane et en firent un festin. Le même sort était arrivé à une chienne morte que l'on avait attachée au haut d'un arbre pour attirer les oiseaux de proie. Cependant, ces malheureux indigènes auraient vécu à l'aise si ce fût un temps soit peu à donner à l'agriculture, comme faisaient les Algonquins, les Hurons et les Iroquois. Mais les Montagnais, les Canadiens et les Souriquois préféraient vivre de chasse et de pêche, risquant de jeûner à des intervalles assez rapprochés. « Je tiens, dit Champlain, que qui leur montrerait à vivre et leur enseignerait le labourage des terres et autre chose, ils apprendraient fort bien. » Le fondateur dut comprendre par la suite combien il est difficile d'attacher au sol les sauvages de certaines tribus nomades qui ont toujours vécu, de génération en génération, du produit de leur chasse et de leur pêche. Vouloir les faire sortir de ce milieu, qui leur est aussi indispensable que l'air, c'est les condamner à une existence plus misérable encore. La vie des bois a, pour eux, plus de charme que la vie des champs pour certaines personnes transportées par état dans les carrefours des villes. Celles-ci gémissent de leur sort, mais le subissent assez courageusement, tandis que le sauvage, transplanté de la forêt au sein de la civilisation, dépérit vite et meurt avant de se soumettre à des coutumes raffinées. La vie des Français dans l'habitation de Québec ne ferait aucun attrait particulier. Durant le premier hiver, ils eurent à lutter contre deux maladies extrêmement graves, le scorbut et la dysenterie. Les sauvages, dont la nourriture d'automne consistait principalement d'anguilles mal cuites, payèrent largement le tribut à cette dernière. Le serrurier Natel y succomba vers la fin de novembre. Cinq autres en moururent durant l'hiver. Mais ce fut le scorbut qui fit le plus de ravages. 18 en furent atteints et 10 fatalement. Quelque temps après, le chirurgien Bonherme vint grossir la liste des mortalités en la portant à 17. De sorte qu'au printemps, il ne restait plus que 8 hommes avec Champlain et encore étaient-ils tous indisposés. C'était la troisième épidémie dont celui-ci fut témoin. Aussi commença-t-il à en comprendre les véritables causes sans en connaître le remède. « Je tiens pour assurer, dit Champlain, qu'ayant de bon pain et viande fraîche, on n'y serait point sujet. » Le premier hivernage à Québec ne fut donc qu'une longue suite d'épreuves pour la colonie naissante. Aussi, les beaux jours du printemps furent salués avec bonheur par les survivants. Le 5 juin arriva Desmarais, gendre de Pontgravé, avec la bonne nouvelle que son beau-père était à Tadoussac depuis le 28 mai. Champlain commit la garde de l'habitation à Desmarais et courut à Tadoussac. Une lettre de M. Demont lui enjoignait de repasser en France pour lui rendre compte de ses découvertes. Il lui fallut donc se préparer à partir pour le pays des Iroquois avec le parti de Montagnais qui avait promis de l'accompagner. Le but de cette longue expédition est facile à saisir. Les sauvages voulaient porter la guerre au cœur même du pays de leurs ennemis. Quant à Champlain, pour qui ces luttes n'avaient aucun attrait, il se proposait surtout d'en tirer profit pour ses découvertes. Mais, comme nous le verrons bientôt, il ne pouvait pas reculer devant les exigences de ses alliés. Il prit avec lui les 20 hommes que Pontgravé mit à sa disposition et monta à Québec, laissant celui-ci à Tadoussac. Gravé devait, en attendant le retour de Champlain, surveiller l'habitation de Québec, l'approvisionner en prévision de l'hiver suivant et faire un voyage dans la Gaspésie. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté le chapitre 10 de Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N.E. Dionne. Cette version audio est diffusée sous contrat Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivatives et est une production 2011 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.